Alors, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles est une association qui a une mission d'intérêt général.
La minute du CIDFF.
De parler de beaucoup de sujets, de beaucoup de thèmes qui sont en relation avec vos missions.
Le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles.
Venir interroger chacun d'entre nous sur nos représentations et puis de pouvoir observer pour pouvoir peut-être bouger les choses.
Sur 48FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre émission, votre chronique, la minute du CIDFF, avec aujourd'hui Valérie Lucas, directrice du Centre d'information pour le droit des femmes et des familles. Bonjour Valérie.
Bonjour Ludovic.
Alors, on vient de terminer cette semaine qui a vu plusieurs manifestations en Lozère par rapport à cette journée du 8 mars, cette journée internationale pour le droit des femmes. On va peut-être revenir dessus, vu que cette journée est passée, savoir déjà, cette journée du 8 mars, comment elle a été créée, d'où vient son origine ?
Alors, la journée internationale droit des femmes trouve son origine dans des manifestations en Europe, en Russie, à Saint-Pétersbourg notamment, et aux USA, au début du XXe siècle, où des femmes ont manifesté, ont revendiqué l'accès au droit de vote et des meilleures conditions de travail. Il a fallu une cinquantaine d'années pour que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, reprenne à son compte cette thématique de l'égalité femmes-hommes et inscrive cette journée internationale en 1975 dans l'une des manifestations pour la défense des droits des femmes. Et cette orientation a été reprise par le candidat François Mitterrand lors de sa campagne en 81, et la journée internationale est devenue et a été appliquée en France le 8 mars 1982 pour la première fois. Et depuis, elle se décline chaque année. Alors, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'effectivement, en regardant et en observant les différentes communications, je prendrai l'exemple, par exemple, des Facebook. On a vu plein de bonnes intentions, peut-être, mais où on a pu constater des publications sur « Bonne journée à toutes les femmes ». Quel est le sens de cette journée internationale droit de la femme ? Ce n'est pas la journée de la femme. Il faut vraiment insister parce qu'il y a vraiment des... On l'entend, aujourd'hui c'est la journée de la femme. Non, ce n'est pas une journée rosie de plus. Ce n'est pas la fête des mères. Ce n'est pas la Saint-Valentin. C'est vraiment une journée qui est faite pour réaffirmer l'actualité du combat pour le droit des femmes. Et les mots sont vraiment très importants et c'est ce que j'invite chacun à regarder et à observer les communications qui ont pu paraître au moment de cette journée. Regarder les publicités, les invitations à participer à une compétition sportive avec des prix préférentiels pour les femmes, des tickets roses, etc., etc. Non, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment faire un bilan où en est l'égalité femmes-hommes au niveau international et aussi en France. Donc cette journée, elle était faite la semaine passée pour engager les gouvernements, les associations à mettre en place des manifestations et à sensibiliser à cette inégalité femmes-hommes.
C'est la journée internationale pour le droit des femmes qui touche bien sûr plusieurs aspects. Finalement, pourquoi on se mobilise ?
Pourquoi on se mobilise ? Donc effectivement, on pourrait penser que la question de l'égalité femmes-hommes, ben, il n'y a pas de sujet en France, que c'est un sujet peut-être des pays les moins avancés. À l'international, dans des pays moins avancés, le mariage forcé, le mariage des jeunes filles, ce qui peut avec des grossesses très précoces, l'impossibilité pour ces jeunes filles d'aller à l'école, etc. Mais c'est pas l'apanage des pays les moins avancés, c'est aussi chez nous en France, tous les jours, dans tous les domaines, que l'on peut constater des inégalités entre les femmes et les hommes. Donc je voudrais dire attention aux apparences, parce qu'effectivement, on peut tous constater l'évolution des droits des femmes. On partait en 1804 avec un code civil napoléonien dans lequel la femme n'avait pas la personnalité juridique. Elle était sous l'autorité parentale et sous l'autorité de son mari. Donc les lois ont permis d'abolir cette méconnaissance juridique des femmes. Je prendrai par exemple dans le droit de la famille. Donc il a fallu attendre 1965 pour que les femmes aient la possibilité de travailler sans l'autorisation de leur mari et d'ouvrir un compte. Il a fallu attendre 1970 pour que la notion de chef de famille et de puissance paternelle disparaisse et soit remplacée par l'autorité parentale conjointe du père et de la mère. Il a fallu attendre 2005 pour pouvoir donner le nom des deux parents à ses enfants, c'est-à-dire le nom du père et de la mère, sachant qu'aujourd'hui, cette possibilité est très peu utilisée.
Il y a une nouveauté sur ça depuis cette année qui vient juste d'être votée, de pouvoir choisir, enfin de changer une fois dans sa vie de nom.
Voilà, effectivement, la possibilité, dans des cas peut-être très, très complexes, de choisir le nom du parent, de la mère. Si c'était le nom du père, on peut l'imaginer peut-être dans des situations où le père est déchu de son autorité parentale ou dans les situations de violence conjugale.
Tu nous parles d'un aspect, il y en a d'autres, j'imagine.
Oui, j'aurais envie aussi aujourd'hui de dire, observer les situations dans l'éducation. L'éducation, là aussi, c'est un champ, un domaine où les choses ont évolué. Si on parle du 19e siècle, la loi Falloux, elle impose aux communes de plus de 800 habitants d'ouvrir une école pour les filles. 1882, les lois Ferry reconnaissent l'égalité des sexes dans l'instruction. 1924, les filles ont le droit de passer le bac et les programmes deviennent identiques aux filles et aux garçons. Et puis, 1976, la loi Abi rend la mixité obligatoire, donc même dans les écoles. Donc on a, par exemple, connu en Lozère, pour des générations relativement récentes, l'école des garçons et l'école des filles. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, y a plus de problème. Mais si on observe l'orientation des filles et des garçons, par exemple au collège, puis au lycée, puis dans l'enseignement supérieur, on voit que les choses ne sont pas si évidentes que ça. Je prendrais pour preuve, en fait, par exemple, en lycée, les filles vont aller sur les filières, plus facilement sur les filières littéraires, choisir des matières liées à la littérature, alors que les garçons vont aller sur les mathématiques, les sciences physiques ou les SVT. Sur les formations supérieures, on ne retrouve que 28% des femmes dans les formations ingénieurs, 40% en STAPS. Dans les classes préparatoires et les grandes écoles, elles ne sont que 42%. Bon, il y a une évolution. Et puis, dans les formations médicales et paramédicales, à l'inverse, on retrouve 84% de femmes. Dans les langues, les lettres et les sciences humaines, on a 70%. Donc tout ça, ça mérite d'être observé et analysé, puisqu'en fait, ça a un impact sur les choix de carrière, sur le positionnement dans des métiers qui sont souvent en fait moins rémunérés, les métiers du social, etc., avec un impact en fait tout au long de la vie, puisqu'en fait, on sait aussi que les femmes ont une retraite beaucoup plus faible que les hommes, et c'est lié en fait aux métiers qu'elles ont pu exercer et au déroulement de leur carrière.
Également concernant ce droit, j'imagine qu'on doit parler de politique, c'est le lien de tout finalement.
Oui, on pourrait. C'est vrai que j'aurais envie de vous parler aussi de la politique parce que là aussi, on pourrait penser, y a pas de problème, les femmes ont le droit de vote, elles ont le droit de vote et elles sont éligibles depuis 1944, elles ont pu voter en 45. Mais en fait, il a fallu aussi beaucoup d'autres textes pour que les choses avancent. Ce n'est qu'après l'adoption de la révision constitutionnelle et la mise en place des dispositifs contraignants que la parité politique a pu progresser en France. Et en 2007, une nouvelle loi fait entrer les élections cantonales dans le champ de la parité. Si vous vous rappelez, c'est l'époque à laquelle les candidats doivent présenter un suppléant de sexe différent. Voilà. Donc ça, c'est une avancée. La parité s'est aussi appliquée à partir de 2007 dans les communes de plus de 3500 habitants, où là aussi, on doit avoir une parité au sein des adjoints au maire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la proportion des femmes qui sont élues maires reste faible, hein, simplement 19,80% après les élections de 2020. Que la répartition, observez la répartition thématique des postes d'adjoints. Qui vous voyez au social, qui vous voyez à l'éducation, qui vous voyez à la petite enfance, ce sont des femmes. Elles y sont présentes à 78% dans le social et à 93% dans l'enfance et la petite enfance. Et qui tient les finances ?
Les hommes pour 80%. On retrouve un peu ce que tu expliquais auparavant concernant les filières et les métiers.
Finalement, on retrouve tout ce qui est lié au care, aux soins des personnes, à l'éducation, ferait partie du domaine des femmes. Et tout ce qui serait du pouvoir, de la décision, appartiendrait aux hommes.
On voit également en politique que les binômes, tu parlais des cantonales, mais qu'on voit les députés et les sénateurs, ce sont souvent des hommes avec des remplaçants, remplaçantes ou suppléantes femmes. Et c'est très peu le contraire.
Effectivement, hein, de toute façon, on n'a que 38% des femmes à l'Assemblée nationale. Elles occupent 38% des 577 sièges et 34,8% de sénatrices. Voilà. Après, ce que j'engagerai aussi, je l'ai fait à titre personnel, et où je le fais, c'est observer le traitement des candidates à la présidentielle. Est-ce que le traitement médiatique des candidates femmes, d'Anne Hidalgo, de Valérie Pécresse, même de Marine Le Pen, est le même que celui des candidats hommes ? Voilà, c'est juste une... Je vous tends la perche, mais je pense que les différences sont réelles.
Je ne sais plus quel site aussi a regardé les programmes pour savoir quels étaient les candidats les plus féministes ou les candidates les plus féministes. Et voilà, je crois que c'est elle ou c'est un autre site. Je vous invite à aller les voir.
Tout à fait.
On sort d'une période compliquée avec la crise sanitaire. Est-ce que ça a eu une influence sur tout ce que tu nous parles, ça, sur ces aspects difficiles concernant ces luttes pour le droit des femmes ?
Oui, on a vu encore un recul pendant la crise sanitaire. Hein. Qui s'est occupé des enfants ? Qui a pris les congés pour garder les enfants ? Là encore, on constate les chiffres. Hein. Je prends les chiffres. Je vous invite aussi, pour ceux qui peuvent ou qui le souhaitent, à aller sur le site du gouvernement, du ministère droits des femmes, et compulser les chiffres de l'égalité. Et en 2020, en fait, on s'est aperçu que 21% des mères ont cessé de travailler pour s'occuper des enfants pendant le premier confinement, contre simplement 12% des pères. 35% des femmes étaient complètement en télétravail, donc ne passaient pas au bureau, contre 27% des hommes. Et puis, dans le traitement médiatique, hein, on était envahis d'informations, on ne parlait plus que du Covid. Qui étaient les experts qui parlaient ? Eh bien, c'était les hommes. Les femmes étaient beaucoup moins présentes dans les médias pendant le premier confinement, et on avait simplement 16,6% des expertes contre 83% d'hommes experts sur la période du premier confinement. Donc là encore, les femmes ont payé le prix de la crise sanitaire. Ce ne sont que des exemples. Hein.
Pour clôturer cette émission, tu aurais un message de fin ?
Ben, je pense qu'il faut se servir. Donc le 8 mars, hein, ça doit être toute l'année, hein, puisque le combat pour le droit des femmes doit rester un sujet d'actualité. C'est pas un sujet has-been. Je pense qu'il faut qu'on fasse preuve de pédagogie, d'encourager, c'est un petit peu le sens de nos émissions, hein, la minute du CIDFF, d'encourager chacun à l'observation de situations d'égalité ou d'inégalité, que ce soit dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle, dans la sphère culturelle. Ne pas être dans l'agressivité, mais bien dans une action collective femmes-hommes qui soit co-construite pour avancer ensemble. Je prendrai en référence de la semaine passée des interventions scolaires où il était question de l'égalité femmes-hommes et où on avait sur une présentation en fait des jeunes garçons, des ados qui se sentaient agressés. Donc je pense qu'il faut vraiment utiliser la forme de la pédagogie, du questionnement, de l'observation. On n'est pas là contre les hommes, mais bien avec eux pour faire avancer les droits. Je pense aussi qu'il faut passer par des quotas. On l'a dit tout à l'heure en politique, on ne serait pas arrivé à la parité dans les conseils départementaux, par exemple, avec des présidentes au sein des conseils départementaux, si les quotas n'avaient pas été instaurés. Il en est de même pour les conseils d'administration des grandes entreprises. Et puis, troisième axe, je pense qu'il faut passer par la sanction, mais avec des sanctions effectives et des procédures accessibles. Les femmes qui sont victimes de violences, qui sont victimes de harcèlement dans la rue, qui sont victimes de licenciements abusifs au travail, n'ont pas forcément les moyens d'aller en procédure. Le coût de l'avocat n'est pas forcément pris en charge par les assurances. On n'a pas forcément de protection juridique. On n'a pas forcément accès à l'aide juridictionnelle. Donc là aussi, il faudrait permettre un réel accès aux procédures pour arriver à des sanctions prononcées par la justice.
Et justement, pour avoir ces renseignements, on peut venir vous voir au CIDFF. Est-ce que tu peux nous rappeler le contact du Centre d'information pour le droit des femmes et des familles ?
Donc, le CIDFF est accessible du lundi au vendredi par téléphone, donc au 04 66 49 32 65, et aussi par le biais de notre site internet lozere.cidff.info.
Merci beaucoup.